temps, mais c'est très différent selon les provinces ou les régions. Nouméa, elle a dû être court français et les deux autres régions ou indépendantistes, je pense. C'est sa première question. La deuxième question, je crois qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a une trentaine de langues. Les tribus kanak sont dans des vallées séparées les unes des autres. Et il y a une trentaine de langues et les kanak ne se comprenaient pas forcément. Je crois que le français a été très fédérateur auprès des kanaks et a permis aux différentes tribus de s'entendre, de pouvoir discuter. Parce que leur langue ne leur permettait pas forcément. Voilà.
Ah, pour compléter, quelle langue a appris Maurice Lénard?
La 28e.
Moi, j'ai retenu une quarantaine de langues. De langues, dialectes, après. Ça peut aussi être comme les Italiens qui ont une multiplicité de langues locales, mais qui se comprennent entre eux, enfin, puis les Allemands aussi. C'est pas forcément.
Si on prend l'hypothèse que la Nouvelle-Calédonie devienne effectivement indépendante, sans la France, est-ce qu'il y a des États, en termes de géopolitique, qui aimeraient jeter leur dévolu sur ce territoire? Par exemple.
L'Australie n'a pas les moyens.
Ah oui, c'est... Voilà.
Philippe. Bon, alors, Sylvie. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot des différentes églises qui étaient là, entre catholiques, protestants, et puis surtout, est-ce que les Kanaks et les Français étaient répartis équitablement dans ces... Ou est-ce qu'il y avait des églises à dominante kanak, des églises à dominante caldoche? Comment ça se répartissait?
Philippe? Est-ce que les églises se concernent pas entre elles? Est-ce qu'il y a une dimension œcuménique? Est-ce qu'elles sont structurées? Est-ce qu'elles se rencontrent? Ou alors elles travaillent chacune de leur côté?
Peut-être un premier. Merci pour toutes ces questions. D'abord, donc le référendum de l'an dernier, si on regarde de manière précise, commune par commune, province par province, il est clair que la province sud a été pro-française, les deux autres provinces ont été indépendantistes très majoritairement. Et le risque, enfin moi il me semble que c'est un risque qui apparaît maintenant, c'est un risque de partition. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent, bon ben, s'ils veulent l'indépendance, ben, qu'ils la prennent pour leur province. Et le Sud resterait français parce que c'est quand même très marqué. En même temps, c'est pas si simple que ça. D'abord parce que l'un des phénomènes que j'ai remarqué en 30 ans, encore une fois, j'y étais en 89, puis je suis pas retourné avant 2018. Donc pendant 29 ans, j'étais pas allé, je me tiens au courant. Hein, j'édite tous les mois une revue de presse sur la Nouvelle-Calédonie que j'envoie à un certain nombre d'abonnés. Donc vous voyez, depuis 30 ans, tous les mois, 14 pages de revue de presse, donc ça me maintient quand même très au courant de ce qui se passe, mais j'y étais pas allé. Et je me suis rendu compte à quel point la brousse s'est vidée en 30 ans. C'est-à-dire que Nouméa est devenue une énorme ville avec des banlieues, enfin des faubourgs très peuplés, avec beaucoup de squats, puisque les Kanaks n'ont pas forcément les moyens de vivre dans des maisons, donc ils squattent avec de la tôle ondulée dans les no man's land. Et donc, les tribus se sont vidées, mais littéralement vidées. Il y a quand même un vote indépendantiste en province sud, un vote indépendantiste à Nouméa, parce que Bon, il y a des Kanaks qui continuent à voter dans leur tribu d'origine, mais beaucoup maintenant sont à Nouméa. Il y a une sous-culture Kanak de Nouméa qui est très forte, avec des gens qui n'ont plus de lien avec leur tribu d'origine, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 30 ans. Mais à 30 ans, les Kanaks qui vivaient à Nouméa, ils retournaient en tribu très régulièrement, au moins pour les vacances. Là, il y a maintenant des Kanaks qui n'ont plus de lien avec leur tribu d'origine. Donc il y a quand même des indépendantistes à Nouméa. Alors, je précise que sur le plan ethnique, les Kanaks sont encore plus indépendantistes qu'il y a 30 ans. 30 ans, on disait que 85%. Aujourd'hui, c'est 90%. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus que 10% de Kanaks qui ne sont pas indépendantistes. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les Européens, il y a maintenant, y compris les Caldoches. Donc, les Caldoches, ce sont ceux qui sont de souche calédonienne, pas forcément tous descendants de bannières, hein, mais descendants de plusieurs générations de colons, et dont les parents sont nés en Nouvelle-Calédonie. Alors que ceux qui sont nés en Nouvelle-Calédonie sans que leurs parents soient nés en Nouvelle-Calédonie, on les appelle les Niaouli, donc c'est une catégorie intermédiaire. Donc les Caldoches, ceux qui sont de souche de plusieurs générations, au moins deux générations, il y a un progrès de la cause indépendantiste chez un certain nombre de Caldoches. Ça, on le voit, c'est assez facile à voir, parce que les communes, si on regarde commune par commune, et si on regarde bureau de vote par bureau de vote, dans les communes de Brousse, il y a le bureau de vote du village et il y a le bureau de vote des tribus. Et donc, on voit qu'il y a des villages où vivent les Caldoches qui commencent à prendre fait et cause pour l'indépendance. Sur la côte ouest, autant que sur la côte est. Donc voilà, c'est plus mélangé que ça, mais c'est vrai que globalement, les deux provinces indépendantistes ont voté indépendantiste et la province sud a voté pour la France. La question des langues. Alors, c'est pas vrai que les Kanaks ne se comprenaient pas entre eux avant le français, avant la colonisation. Il y avait 35 langues. Maurice Sénard a fait tout un relevé des langues de manière très très précise. Il y avait 35 langues. Aujourd'hui, il y en a 25, il y en a 10 qui ont disparu. C'est des langues qui sont parlées par 600, 700 personnes, pour certaines. Donc, elles meurent. Il y a des langues qui sont parlées par 12 000 personnes. Celles-là, elles se maintiennent. Donc, il reste 25 langues. Mais avant l'arrivée du français, les Kanaks étaient tous trilingue, quadrilingue, c'est-à-dire qu'avec les intermariages et les relations matrimoniales, ils parlaient toujours les langues des vallées voisines. C'était pas, faut pas se représenter chaque tribu, même si elles étaient jalouses de leur autonomie locale, comme étant totalement repliées sur elles et parlant leur langue et ne parlant pas la langue des autres. Si on prend une carte, j'aurais dû peut-être apporter une carte. C'est intéressant si on regarde la Grande Terre, donc cette grande île qui fait 400 km de long et 50 de large, avec une chaîne centrale assez escarpée au milieu, qui monte à 1800 mètres d'altitude, les langues se répartissent tout le long, sur la longueur de cette île, mais c'est la même langue de part et d'autre de la chaîne centrale. C'est-à-dire que les frontières linguistiques se succèdent tout au long de la longueur de la Grande Terre, et donc on parlait la même langue de part et d'autre du col de la chaîne centrale, et il y avait des relations économiques d'abord entre les tribus de la chaîne et les tribus du littoral pour échanger des produits de la montagne contre des produits de la mer, et il y avait aussi entre les vallées des relations matrimoniales et même des relations commerciales, des relations d'échange symbolique, ce qui fait que les langues étaient quand même toujours, n'étaient pas un obstacle à la communication, les groupes communiquaient en apprenant les langues des autres. Alors, quelle est la langue que Maurice Sénard a apprise? Alors, là aussi, il faudrait avoir une carte, certains ont peut-être une carte dans la tête, mais pas forcément tout le monde. Donc la grande terre, Nouméa est tout à fait au sud de la grande terre, et Maurice Sénard a implanté sa station missionnaire au centre de la côte est. Pourquoi? Donc la région de Wailou. Pourquoi? Parce que Là, je ne veux pas être trop long, mais il faudrait raconter qu'en fait, cette région-là avait commencé déjà à être évangélisée. Stratégiquement, c'était intéressant d'être au centre, bien sûr, mais surtout parce que l'histoire de l'évangélisation du Pacifique peut être résumée de la manière suivante. L'évangélisation protestante s'est faite d'abord par une mission anglaise, la Société des missions de Londres, à la fin du XVIIIe siècle, qui est arrivée à Tahiti. Et ensuite, au lieu d'évangéliser par des missionnaires britanniques les îles les unes après les autres, ils ont formé des pasteurs autochtones, donc polynésiens, qu'ils ont envoyés d'île en île, d'est en ouest. Et donc, les premiers pasteurs tahitiens sont allés vers les îles Tonga, les îles Cook, et ensuite, les pasteurs des îles Cook sont allés vers Fidji, les pasteurs de Fidji sont allés vers la Nouvelle-Zébride, et ainsi de suite. Et la Nouvelle-Calédonie est arrivée en bout de course, les îles tout à fait à l'ouest du Pacifique, et les missionnaires britanniques n'arrivaient que 10-15 ans après cette évangélisation qui s'était faite d'autochtones par d'autres autochtones. Et finalement, les îles Loyauté, qui sont au large de la Grande Terre, ont été évangélisées par des Anglais assez tôt, au milieu du 19e siècle, et à la fin du 19e siècle, ont envoyé des pasteurs pour évangéliser la Grande Terre. Pendant 50 ans, les protestants n'avaient pas droit de citer sur la Grande Terre parce que la mission mariste, la mission catholique, avait le monopole. Et puis, c'est un gouverneur anticlérical, franc-maçon anticlérical, Paul Feuillet, qui, à la fin du XIXe siècle, a ouvert la Grande Terre à l'évangélisation protestante. C'est un peu ironique l'histoire. C'est pour faire pièce aux catholiques qu'il a favorisé les protestants. Et donc, il y a eu un début d'évangélisation des autochtones par les autochtones, des loyalciens vers les gens de la Grande Terre, autour de la région de Wailou. Et donc, il était logique que Maurice Lénard s'installe à Wailou. Quand il est arrivé, il y avait déjà là un certain nombre de convertis qui l'ont accueilli les bras ouverts en disant « voilà un missionnaire qui va nous protéger contre les spoliations foncières et qui va nous redonner le goût de vivre ». Et donc la langue qu'il a apprise, c'est la langue Andia, qui est la langue de la région de Wailou, qui n'est pas la plus parlée, mais qui est quand même une langue relativement parlée par rapport aux autres. Alors, je précise aussi que la question des langues est très importante, à la fois pour Maurice Lénard, quand il dit il faut se mettre à l'écoute de l'autre, il faut apprendre la langue de l'autre, à la toute fin de sa vie, dans les derniers textes des années début des années 50, il exhorte les Calédoniens européens, les Caldoches, à apprendre les langues kanaks en disant c'est comme ça que vous ferez un pas. Les Kanaks ont fait beaucoup de pas parce qu'ils ont appris votre langue, le français, ils ont été scolarisés, et vous n'avez pas fait le même effort dans l'autre sens. Donc il exhorte les Européens à faire l'effort inverse vers les Kanaks pour se mettre à l'écoute des langues et des cultures. Et puis c'est une question très importante parce que pendant très longtemps, les langues Kanaks étaient réprimées, il était interdit de parler le langage, comme on disait, c'est-à-dire la langue autochtone dans les cours de récréation, hein, on était puni quand on le faisait, en Alsace aussi pendant très longtemps, mais voilà, en Nouvelle-Calédonie, c'était encore jusqu'à la fin des années 70. Et une des revendications kanaks, c'était que les langues puissent être reconnues, qu'on puisse avoir des cours de langue au lycée et même passer le bac avec des options de langue locale, ce qui est maintenant le cas. Donc là, il y a eu quelque chose d'important qui a été fait depuis 30 ans, c'est que les langues ont maintenant droit de cité, qu'on enseigne les langues grecques dans les lycées et les collèges de Nouvelle-Calédonie. Le grand paradoxe, à l'époque de Maurice Lénard, dans les années 50, lui, il enseignait l'andia, la langue de Wailou, à l'école des langues orientales, l'Institut des langues orientales à Paris, alors qu'en Nouvelle-Calédonie, cette langue était réprimée. Elle était reconnue à Paris, elle était interdite dans les cours de récréation en Nouvelle-Calédonie. Mais aujourd'hui, tout cela est du passé, heureusement. Alors, en cas d'indépendance, est-ce que des États jetteraient leur dévolu sur la Nouvelle-Calédonie ? Certainement, bien sûr. Alors, tout le débat actuellement entre indépendantistes, c'est de savoir si, en cas d'indépendance, ça serait une indépendance rupture avec la France ou une indépendance en étroite association, coopération avec la France. Bon, ce que Edgar Pisani avait proposé en 85, une indépendance d'association, mais qui avait été rejetée à l'époque. Aujourd'hui, beaucoup d'indépendantistes considèrent que d'abord ils sont francophones, hein, donc c'est important de garder des liens avec la France. Et même certains vont jusqu'à dire on pourrait garder la base militaire française à Nouméa, pourquoi pas. En tout cas, garder des relations étroites avec la France, privilégiées avec la France. Mais tous les indépendantistes ne sont pas d'accord là-dessus. D'ailleurs, il y a eu tout récemment un congrès du FNKS qui a capoté, qui n'a pas réussi à trouver un accord entre indépendantistes sur ce sujet. Certains, donc, considèrent que la France a fait trop de mal et qu'il faut donc rompre totalement avec la France. Alors, des États qui jettent leur dévolu, oui, si on va au Vanuatu, qui est le pays le plus proche, hein, les anciennes Nouvelles-Hébrides, qui sont à 500 km au nord-est de la Nouvelle-Calédonie, qui sont un archipel indépendant depuis 1980. J'y suis allé en 82, j'ai vu ce que c'était qu'un État indépendant gouverné par des Mélanésiens, par des Océaniens. Quand j'y étais en 82, c'était un État très pauvre, mais parce qu'il n'y a pas de ressources, hein, il n'y a pas de nickel, il y a très peu de ressources, mais un État qui était très fier de son indépendance. J'y suis pas retourné, mais tous les échos que j'ai eus, c'est que maintenant, il y a les Chinois partout. Vanuatu, c'est vraiment les Chinois qui sont présents dans l'économie, il y a eu des accords très, très étroits avec la Chine, et donc la Chine, elle avance ses pions dans ces régions-là, pour des raisons évidemment géopolitiques et économiques. Il y a, je ne sais pas si ça n'a pas fait la une des journaux, mais peut-être certains l'ont vu, au mois de décembre, il y a eu un référendum dans une île qui s'appelle l'île de Bougainville, qui est à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais qui fait partie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui a été indépendante depuis 1975, une ancienne colonie australienne. Et l'île de Bougainville avait un mouvement sécessionniste très important. Il y a eu une guerre civile dans les années 90 qui a fait 20 000 morts quand même. Sur une population de 200 000 habitants, donc 10% de la population est morte dans cette guerre civile. Et puis il y a un accord de paix en 98, et, en 2001 plus exactement, et puis un référendum proposé pour 2019 et qui a eu lieu donc le mois dernier. Résultat, 98% pour l'indépendance. Donc c'est une population totalement autochtone, hein, mais qui veulent se séparer d'un État indépendant qui est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et Bougainville est très intéressant pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée parce qu'ils ont du cuivre et de l'or en pagaille. Hein. Ils ont vraiment des mines de cuivre et d'or. Ça représente 40% des exportations de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc la Papouasie-Nouvelle-Guinée va devoir se séparer d'une île dans laquelle elle a des ressources importantes. Et évidemment, les Chinois sont tout intéressés d'établir des relations de coopération avec ce nouvel État qui va surgir, l'État de Bougainville, du nom d'un navigateur français, Bougainville, qui devrait être le prochain État à l'ONU d'ici un ou deux ans, quand l'indépendance va être actée. Donc là, c'est sûr que les Chinois sont intéressés, les Australiens aussi, donc il y a des États qui suivent la situation en Nouvelle-Calédonie de très près, parce que ça sera évidemment... Alors, oui, j'aurais dû dire ça. Pourquoi est-ce que la Nouvelle-Calédonie intéresse la France? Pourquoi est-ce que la France tient à garder la Nouvelle-Calédonie? Pourquoi est-ce qu'il y a une population française qui tient à rester en Nouvelle-Calédonie, qui tient à rester française? Eh bien, c'est quand même la ressource du nickel qui fait de la France le troisième producteur de nickel au monde. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est pas ça qui a amené la France à prendre possession du territoire, parce qu'on a découvert que 25 ans plus tard. Mais aujourd'hui, on a, grâce à la Nouvelle-Calédonie, cette ressource importante. Après le Canada et la Russie, c'est le troisième producteur au monde de nickel. Et ça intéresse aussi les Chinois, ça intéresse d'autres États, bien entendu, d'avoir des accords de coopération avec la Kanaky indépendante, si un jour elle émerge, pour l'exploitation du nickel. Alors, les différentes églises... Bon, là aussi, je vais essayer d'être... Bref, parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Donc, il faudrait retracer toute l'histoire missionnaire. Bon, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une mission catholique depuis le début même avant même la prise de possession, depuis les années 1840, qui s'est implanté en Nouvelle-Calédonie, mais qui a végété et qui, à l'époque de l'arrivée de Maurice Sénart, ne progressait plus. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que la reprise démographique de la part des protestants, très nette dans les années 1910, tous les groupes qui refusaient de se convertir ont disparu. On ne faisait plus d'enfants ou ont disparu par la répression de la révolte de 1917. Donc il ne restait plus que des chrétiens. Eh bien, ce dynamisme de la mission protestante a eu un effet positif pour la mission catholique qui a été en quelque sorte dans une émulation pas très œcuménique, une rivalité. Eh bien, la mission catholique s'est réveillée du fait du dynamisme de la mission protestante. Donc la mission catholique a à nouveau progressé indirectement grâce à la mission protestante et à l'œuvre de Maurice Sénart. Et donc aujourd'hui, on a 50% de protestants, 50% de catholiques chez les Kanaks. Si on prend la population globale, évidemment, on a une majorité de protestants, de catholiques, pardon, puisque les Européens, comme en métropole, sont très peu protestants. Il y a des protestants tahitiens. Par contre, les Wallisiens, qui sont très nombreux en Nouvelle-Calédonie, sont catholiques. Wallis et Futuna sont des îles totalement catholiques. Il y a des musulmans chez les Indonésiens ou chez les descendants des révoltés kabyles, des bagnards kabyles. Il y a des communautés musulmanes également. Et puis, il y a des bouddhistes aussi, quelques autres communautés. Mais si on prend les chrétiens d'une façon générale, les protestants sont 15% à peu près de la population, entre 15 et 20%, ce qui est beaucoup plus qu'en métropole, mais ce qui reste une minorité, bien sûr. Alors les églises, les églises, il faut voir le clivage géographique, c'est-à-dire que quand vous allez en brousse, ben, vous avez les villages et les tribus, et les villages, eh bien, vous avez des églises catholiques avec des Européens, et presque que des Européens, et puis les tribus avec des églises catholiques où il n'y a que des Kanaks, et des tribus avec des églises protestantes, des temples. Pour Nouméa, ben, je dirais que c'est la même chose. Il y a un clivage géographique. Il y a des quartiers européens et des quartiers kanaks, non pas parce qu'il y a de l'apartheid, mais parce que pour des raisons financières, bien entendu, pour la raison du prix de l'immobilier. Et donc, il y a des églises qui sont dans des quartiers huppés, où il n'y a presque que des blancs, et des églises qui sont dans des quartiers défavorisés, où il n'y a presque que des noirs. C'est un peu logique. Et puis, heureusement, il y a aussi des églises où il y a des mélanges. Pour ce qui concerne le protestantisme, l'église... je ne vais pas prendre trop de temps, parce que il y a toute une histoire du protestantisme en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu un schisme au sein de la mission protestante en 1957, donc un peu après la mort de Maurice Sénart, pour des raisons... Sauf si ça vous intéresse, je ne pourrais pas rentrer dans le détail, mais disons qu'il y a eu un schisme, et donc il y a deux églises protestantes, une église qui s'appelle l'église libre, et une église qui maintenant s'appelle l'église protestante de Kanaki-Nouvelle-Calédonie. Le titre est intéressant, le titre de cette église, qui est donc luthéro-réformée, disons, plutôt réformée. Comment ? Voilà, c'est ça, donc l'Église réformée. Elle a choisi, il y a quelques années, de s'appeler Église protestante de Kanaki-Nouvelle-Calédonie. Non pas Église protestante de Kanaki, mais en mettant les deux, pour que se retrouvent les indépendantistes comme les anti-indépendantistes. C'est intéressant, quand vous allez en Nouvelle-Calédonie, vous voyez que sur tous les édifices publics, il y a deux drapeaux, un drapeau tricolore et un drapeau de Kanaki. Il n'y a pas de région en France où on a un drapeau corse et un drapeau français au même niveau. Hein. Or là, c'est le cas, y compris dans les mairies anti-indépendantistes. Hein, tout le monde a joué le jeu. Et donc l'Église a un peu suivi ce mouvement de destin commun. Et bien, on donne la place pour les indépendantistes comme pour les anti-indépendantistes. Simplement, la population protestante, elle est à 98% kanak. parce qu'il y a peu d'Européens protestants en Nouvelle-Calédonie comme en France. Et il y a une seule église, une seule paroisse qui est vraiment pluriethnique sur 85 paroisses, je crois. Donc toutes les autres sont 100% kanaks. Et cette église pluriethnique, cette église protestante pluriethnique, cette paroisse protestante pluriethnique, c'est la paroisse du Vieux Temple qui est au centre de Nouméa, qui est à la fois un monument historique, donc qui fait partie des visites touristiques, qui est aussi une vitrine parce qu'elle est très bien située, et qu'elle est aussi un lieu d'accueil puisque c'est là que arrivent tous les gens qui arrivent à Nouméa, alors que la paroisse Kanak, elle est dans un faubourg plus excentré. Cette église, cette paroisse du Vieux Temple a fait sécession il y a maintenant quelques années, et donc elle s'est séparée de l'église pour faire église à elle toute seule. Voilà, donc c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis retourné en Nouvelle-Calédonie en 2018, c'est pour essayer une médiation entre l'église et cette paroisse qui avait fait sécession avec l'église. Ce qui fait que aujourd'hui, le PKNC, l'église protestante de Kanaky-Nouvelle-Calédonie, elle est 100% kanak. Elle n'est plus 95% kanak, elle est 100% kanak, puisque les quelques Européens qui étaient dans cette église sont au Vieux Temple, et donc ils ne sont plus dans l'église. Donc, vous voyez, les choses ne sont pas forcément ni simples ni réjouissantes. Comment est-ce que les églises dialoguent entre elles? Est-ce qu'il y a de l'œcuménisme? Eh bien, voilà, si encore il y avait de l'œcuménisme, tout cela serait moins dramatique, mais il y a peu d'œcuménisme en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que les églises fonctionnent peu, enfin dialoguent peu.
Comme j'y étais, il y avait quand même la journée mondiale de prière,
oui,
qui était une manifestation œcuménique. Elles avaient tout de suite été invitées.
Oui, alors.
La semaine de prière pour l'unité, dans l'hémisphère sud, c'est plutôt aux alentours de la Pentecôte qu'en janvier.
Oui. Donc entre catholiques et protestants.
Oui.
Oui, alors il y a. Oui, donc il y a un peu d'œcuménisme. Je trouve qu'il y en a beaucoup moins qu'en France, mais surtout il y a très peu d'œcuménisme intra-protestant. C'est-à-dire que les réformés considèrent les évangéliques comme des sectes. Hein, le terme de secte pour désigner des baptistes, des adventistes, on emploie toujours le terme de secte, donc et les pentecôtistes a fortiori. Donc il y a peu de dialogue entre protestants. Et l'an dernier, la Fédération protestante de France a proposé d'inviter à Paris deux représentants de l'EPKNC, un représentant de l'Église libre et deux représentants des Assemblées de Dieu dans les églises pentecôtistes. Ils sont venus à Paris, ils ne s'étaient jamais vus. C'est en arrivant à Paris, et en plus ils n'ont pas pris le même avion, donc ils sont arrivés à Paris et ils ont été invités officiellement par la Fédération protestante, ils ont fait connaissance, réellement. Hein, ils avaient l'air contents. Moi je suis un peu mitigé sur les suites, parce que j'ai été donc en Nouvelle-Calédonie au mois d'octobre, c'était au mois de janvier hein, 2019, j'ai été au mois de septembre-octobre 2019, j'ai vu que ça n'avait pas bougé du tout, c'est-à-dire que l'espoir de la Fédération protestante de faire une fédération protestante en Nouvelle-Calédonie, on ne peut pas le faire à leur place, donc ouais, on les invite à le faire, s'ils ne veulent pas, ils ne le feront pas, ben, ça n'a pas avancé d'un pouce sur place. Voilà. C'est comme ça, il faut le temps.
J'ai pas eu de nouvelles précises ces jours-ci, mais il y a eu un petit entrefilet, il me semble, je ne sais plus si c'était dans Réforme ou dans un des courriels que j'ai reçus, que les églises évangéliques avaient l'air de vouloir faire quelque chose du genre du CNEF en Nouvelle-Calédonie. Mais oui, tu confirmes. Mais bon, je ne sais pas ce que deviennent les paroisses plus luthéro-réformées, enfin, dans l'histoire.
Oui, c'est possible qu'il y ait des relations entre évangéliques, donc comme le modèle du CNEF en France, mais à ce moment-là, le PKNC, donc l'Église réformée, on va dire ça comme ça, l'Église réformée actuelle n'en fera pas partie, très certainement. Et donc le projet d'une FPF, d'une fédération protestante, enfin d'une FPNC, une fédération protestante de Nouvelle-Calédonie, le chemin est encore long pour y arriver. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions. Deuxième salle des questions.
Le dialogue qui a été mené là sous Michel Rocard. Il y a eu un dialogue de médiation, vous parliez de guerre civile, et il y a eu un dialogue avec les accords. Il y a des choses qui ont été écrites, c'était un exemple de dialogue particulier, parce que ça s'est remis en place dans d'autres lieux pour résoudre ce type de conflit, ou... C'est-à-dire parce que vous dites qu'ils étaient enfermés, mais ce dialogue, il a été construit, organisé, de quelle manière, pour qu'ils en sortent en se serrant la main.
Je rappelle que Racine et Chemin avait fait venir il y a quelques années Jacques Souart,
oui,
qui était le président de la Fédération protestante, qui est allé en Nouvelle-Calédonie à la demande de
Michel Rocard.
De Nouméa, que cela devait s'arrêter, je crois que c'était en 2018. Et c'est les provinces qui, normalement, devaient reprendre la chose. Mais jusqu'alors, on n'a pas vu, enfin, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de recontact, malgré quelques pistes qu'on a eues, mais il n'y a plus de demande de la part des provinces, parce que c'est au niveau des provinces maintenant qu'on décide, de continuer ce projet comme il était avant. Alors, je ne sais pas si tu as quelques idées là-dessus ou pas, mais
est-ce qu'il y a d'autres d'accueil en métropole sur ce plan? Je ne sais pas. Mais...
Oui. Je voudrais revenir un peu sur l'Église, hein, que vous nous parliez un peu comment ça s'est fait, l'indépendance de l'Église protestante réformée, et est-ce que cette indépendance de l'Église a impacté sur les idées indépendantistes pour... La nation kanak, quoi. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux choses?
J'ai une question.
Attends, juste une seconde. C'est une question de vocabulaire. Je vois que dans votre livre, vous n'accordez pas le mot kanak. Et moi, ça me pose toujours question, puisque par rapport à l'Afrique, où je dois travailler et traduire et écrire des livres avec les mots Wolof, Peul, etc., pourquoi vous avez fait, enfin, pourquoi on met pas de... On les laisse invariables, ces mots-là.
C'est un témoignage en direct d'un soldat français qui était en UVA. Qui a attaqué, qui a fait partie de l'armée à ce moment-là, genre les consignes. Et les consignes, c'était tuez-les tous, de la part de l'armée française. Enfin, c'est simplement ça, comme ça, quoi. Enfin, il est encore dans la région, là, de Franche-Comté, hein, enfin, je l'ai côtoyé un certain temps, voilà, témoignage en direct.
Alors, on n'a pas toute la nuit devant nous, donc c'est des questions énormes, hein, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, sur le dialogue de 88 qui a conduit aux accords de Matignon, l'accord de paix, donc, Jean-Marie Tchibaou et Jacques Lafleur qui se serrent la main. Là encore, juste une petite anecdote sur la question des églises, c'est-à-dire que Jean-Marie Tchibaou était un ancien prêtre, Jacques Lafleur était protestant, il avait d'ailleurs souvent sa croix et note sur lui, et l'assassin de Jean-Marie Tchibaou était un ancien pasteur. Alors, vous voyez, un ancien pasteur qui tue un ancien prêtre. Donc on voit qu'il y a une présence religieuse, une présence en tout cas importante dans la vie politique. Alors, le dialogue, comment s'est-il passé? J'étais pas une petite souris pour voir ce qui se passait à l'hôtel Matignon. Ils avaient, d'autant qu'ils avaient des consignes de confidentialité absolue, et je crois que c'est une des clés du succès, hein, dans une médiation, dès qu'il y a des fuites, ça capote. Hein. Et là, moi j'étais à Nouméa à ce moment-là, tout le monde attendait d'avoir des nouvelles. Qu'est-ce qui trame en plus? Certains avaient peur, qu'est-ce qui trame dans notre dos? Qu'est-ce qui se passe à l'hôtel Matignon? Et dans les journaux, les journalistes essayaient de dire quelque chose, ils n'avaient rien à dire, parce qu'il y avait effectivement les consignes de confidentialité ont été respectées à la lettre, donc on ne sait pas ce qui s'est passé précisément, même si après il y a eu quand même quelques témoignages qui ont été donnés après. On sait en tout cas qu'ils ont été sommés par Michel Rocard de faire des pas les uns vers les autres, et d'une certaine manière, avec une sorte de menace, hein, vous ne sortirez pas de l'hôtel Matignon sans avoir trouvé un accord. Pour en savoir un peu plus, je vous invite à regarder ce film, alors si on peut le trouver, je pense qu'on peut le trouver sur YouTube, qui s'appelle Les Médiateurs du Pacifique. C'est un très beau film qui a été joué, c'est pas des acteurs en fait, c'est chacun qui a joué son rôle, et notamment Michel Rocard et Jacques Stewart qui ont essayé de rejouer devant la caméra ce qu'ils ont vécu. Et c'est un film qui a un beau témoignage, tant que certains ont disparu parmi les acteurs, hein, les principaux acteurs, hein, Jean-Marie Tchibaou, Jacques Lafleur sont morts, et Michel Rocard aussi. Donc voilà, on a ce témoignage par ce film, Les Médiateurs du Pacifique. Oui, peut-être j'en profite pour dire que quand en 2018, j'ai essayé cette médiation à l'intérieur de l'Église protestante. Je me suis un petit peu inspiré ce sont des techniques assez classiques de la médiation, c'est-à-dire de mettre ensemble dans une même pièce des personnes qui s'opposent, bien sûr, mais qui s'engagent à la confidentialité absolue. Donc il fallait que je trouve des personnes des deux camps, des deux bords, ne se parlaient plus depuis 3 ans à peu près, hein, si ce n'est par avocat interposé, après s'être bien insulté, qui ont accepté d'être autour d'une même table. Et tout ce qui s'est passé dans les rencontres qu'on a organisées à ce moment-là a été maintenu dans une confidentialité absolue. Et petit à petit, le dialogue s'est renoué. Donc ce que j'ai obtenu, en tout cas, de ce début de médiation, c'est la reprise de dialogue au sein de l'Église. Et après, je leur ai dit, je vous invite à continuer une fois que je serai rentré en métropole. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils continuent à faire, ils dialoguent maintenant. Donc, ils n'ont pas encore trouvé un accord pour savoir si le vieux temple allait revenir dans le giron de l'Église, mais probablement pas, mais plutôt s'ils n'allaient pas faire quelque chose, une sorte d'union d'Église, de deux Églises indépendantes, mais très, très proches, très liées. En tout cas, ils sont en train de dialoguer pour essayer d'avancer dans cette voie-là. Alors, après Bac Service, j'avoue que je n'ai pas d'informations plus précises. Si les provinces continuent donc ce dispositif qui consistait à accueillir des étudiants kanaks en France qui avaient le bac en Nouvelle-Calédonie. Alors il faut savoir que maintenant il y a une université en Nouvelle-Calédonie, donc il y a un certain nombre de formations qui peuvent se faire sur place. Il y a aussi les kanaks qui choisissent d'aller soit en Australie, soit à Fidji, s'ils sont anglophones, donc il n'y a pas besoin forcément de venir en métropole. Même si toutes les filières ne sont pas représentées à l'Université de Nouvelle-Calédonie, mais enfin il y a quand même ça qui est mis en place. Et puis, il y a d'autres filières qu'après Bac Service pour accueillir les Kanaks en France, surtout entre eux. Hein, ils organisent eux-mêmes leur propre filière d'accueil, leur propre dispositif d'accueil. Mais il faut dire à quel point l'après Bac Service a été précieux. C'était un service très important. D'abord parce que c'était tout à fait novateur, hein, et même c'était. Ça a été mis en place très très tôt pour tenir compte du. Ce qu'on ne mesure pas, si on ne connaît pas la situation de la Nouvelle-Calédonie ou si on n'a pas voyagé dans le monde, le clivage culturel incroyable entre un jeune Kanak qui vient, sinon de sa tribu, du moins de Nouvelle-Calédonie, et puis qui arrive en France. C'est une autre planète. On n'imagine pas ce que ça représente en tant que décalage avec beaucoup d'interrogations et beaucoup d'émotions, de se trouver complètement dépaysé dans un autre fonctionnement, une autre culture. C'est considérable. Je vous donne juste un exemple. Dernièrement, j'étais à Roissy pour accueillir quelqu'un, puis j'ai vu un groupe de Kanaks qui étaient là, je les ai reconnus, j'ai reconnu qu'ils étaient Kanaks, et ils étaient perdus. Ils arrivaient à Roissy, et ils savaient pas comment sortir de Roissy, ils n'arrivaient pas à contacter la personne qui... Ils étaient complètement perdus, comme si nous, on était au milieu de la jungle. Hein. C'était impressionnant. Donc je suis allé vers eux, j'ai parlé avec eux, et puis je leur ai permis de trouver un moyen de téléphoner à la personne qui pouvait venir les chercher, et ils m'ont embrassé comme le Messie, comme l'un sauveur. On n'imagine pas ce que ça veut dire que d'être dans une culture aussi différente.
Oui, à ce propos, je voulais dire que quand on était en Nouvelle-Calédonie en 2009, j'avais été frappée en discutant avec des Kanaks de notre génération, donc déjà quand même un peu âgés, dont les enfants étaient partis en métropole, de leur crainte de ne pas les voir revenir en Nouvelle-Calédonie, bien sûr, et puis cette mesure du fossé qui petit à petit les séparait, lequel fossé d'ailleurs commençait déjà à se creuser quand les enfants quittaient les îles Loyauté, pour aller à Nouméa, la grande ville. Alors, dans le meilleur des cas, il y avait quelqu'un de leur tribu qui pouvait les accueillir et puis aider un peu les choses. Mais sinon, le dépaysement, même entre simplement les îles Loyauté et Nouméa, était gigantesque, laissant la place évidemment à toutes les dérives que vous pouvez imaginer, en particulier du côté de l'alcool, de la drogue. Mais c'était vraiment une inquiétude tout à fait ressentie chez les parents kanaks. Et je ne sais pas, dans ceux qui sont venus effectivement se former en France comme cadre, quelle est la proportion de ceux qui sont retournés effectivement en Nouvelle-Calédonie.
Oui, ça c'est une question importante parce que il y a effectivement cette... Il y a eu des échecs, évidemment, des jeunes qui sont venus en France et qui ne se sont pas adaptés, qui ont échoué leurs études et qui avaient la honte de rentrer. Et j'en ai rencontré une fois un de mes anciens élèves du lycée, donc qui avait eu le bac, pas beaucoup qui avaient eu le bac à l'époque, et qui avait eu le bac et qui est arrivé en France et puis qui a échoué ses études et qui n'osait pas rentrer. Et je l'ai retrouvé SDF à Montpellier. Je l'ai reconnu, il faisait la manche à Montpellier parce que. Il était parti dans une dérive complète et il n'osait pas repartir, puis il n'avait plus les moyens de repartir. Donc il y a eu certainement beaucoup d'échecs, mais aussi heureusement des réussites, parce qu'on voit maintenant qu'il y a l'opération 404 a quand même donné aussi beaucoup de fruits. Alors, l'indépendance de l'Église réformée, en fait, j'ai pas vraiment parlé de ça, mais je peux en parler. Hein. Comment est-ce que l'Église protestante a pris son indépendance parce que et voir ce qu'il y a un impact sur les idées indépendantistes. Effectivement, donc la mission protestante, celle fondée par Maurice Lénard, qui s'est poursuivie après lui, a conduit à une église qui a pris son indépendance en 1961. Donc il y a déjà fort longtemps. comme beaucoup d'églises en Afrique, ont pris leur indépendance à l'égard de la maison des missions, de l'église mère, si on peut dire, dans ces années-là. Et donc, l'église est indépendante, c'est-à-dire qu'elle a des relations de partenariat, de collaboration avec les églises françaises et avec les autres églises francophones du monde, mais elle est totalement indépendante dans sa gestion, dans ses finances, dans ses décisions, etc. Depuis 61. Et effectivement, beaucoup de cadres de cette église disent, et qui sont indépendantistes, disent nous on veut pour notre pays ce qu'on a fait pour notre église. C'est-à-dire, nous on a obtenu l'indépendance depuis très longtemps et on voudrait que notre pays soit aussi indépendant comme cela. Et donc il y a un impact, même si évidemment il y a un peu d'illusion de croire qu'on gère un pays comme on gère l'église, hein, c'est un peu d'illusion, mais il y a un impact, une sorte de laboratoire de l'indépendance du point de vue ecclésial dont on pourrait bénéficier sur le plan national. Alors ce qu'il faut dire aussi, ce que je n'ai pas eu le temps de dire tout à l'heure, c'est que l'église protestante donc, a pris position pour l'indépendance. En 1979, donc 18 ans après sa propre indépendance, en tant qu'église, elle a pris position pour l'indépendance politique. Alors ça a créé des remous, il y a eu beaucoup de discussions à ce moment-là. Est-ce qu'une église doit prendre une position de type politique? Est-ce qu'elle peut être, est-ce qu'elle ne doit pas garder une neutralité pour tenir compte de toutes les sensibilités à l'intérieur de l'Église, même si la grande majorité, encore une fois, les Kanaks étaient indépendantistes à l'époque, au moins à 80%, si ce n'est à 85%, et donc au sein de l'Église, il en allait de même. L'Église protestante a pris cette position après tout un travail théologique et pas spécialement politique, tout un travail de lecture des textes bibliques qui l'a amené à prendre cette décision, mais il faut toujours préciser que cette décision en 79, alors qu'il y avait des partis indépendantistes qui commençaient à émerger à ce moment-là, a été prise avec une double dimension spécifique. C'est d'abord l'indépendance doit être acquise dans la non-violence, alors qu'il y avait des partis indépendantistes violents à l'époque, et avec tous, et sans exclusif, sans rejeter les anti-indépendantistes, ceux qui voudront partir pourront partir, bien entendu, mais on ne mettra personne dehors. Le pays doit se construire avec tous, y compris avec toutes les ethnies, ce qui à l'époque était original. Et donc, ce qui est la position actuelle des partis indépendantistes, mais qui n'était pas le cas en 79. Donc l'Église a pris une position pour l'indépendance, mais de manière spécifique, dans la non-violence et avec tous. Voilà la manière d'écrire Kanak, c'est-à-dire K-A-N-A-K, sans E, sans S, donc invariable en genre et en nombre. C'est une décision officielle qui a été prise évidemment suite à des revendications des Kanaks eux-mêmes, des indépendantistes, des Kanaks eux-mêmes. C'est une décision qui a été prise en 88. C'est-à-dire que depuis 88, tous les documents officiels s'écrivent écrivent Kanak comme ça. Donc jamais de E, jamais de S. Une femme Kanak, K-A-N-A-K, et les Kanaks, K-A-N-A-K. Alors il faut dire que ce mot Kanak vient d'une insulte, hein, c'est une insulte raciste qui était un mélange de macaque et de canaille, donc vous voyez, c'est pas très sympathique. C'était les colons qui ont appelé les autochtones canaques de manière méprisante, et comme on le voit dans le mouvement de la négritude, il y a une sorte d'inversion par les canaques eux-mêmes qui ont inversé le sens du mot pour en faire un titre de gloire, hein. Ils sont très fiers d'être Kanak, mais à condition de l'écrire non pas C-A-N-A-Q-E, éventuellement S comme on l'écrivait dans la littérature coloniale, mais K-A-N-A-K, c'est-à-dire remplacer le C par K et ne pas le, ne jamais l'accorder ni en genre ni en nombre, donc le défranciser en quelque sorte. Et maintenant, c'est devenu officiel. C'est-à-dire même des documents les plus officiels, on ne met jamais de S à Canac. Donc j'ai choisi, je l'explique dans une petite note dans les premières pages, j'ai choisi d'écrire cela tout au long de mon livre, sauf quand c'est des citations, évidemment, là je suis obligé de reprendre C-A-N-A-Q-E, mais c'est pas seulement les Canaques aujourd'hui qui écrivent et qui s'expriment comme ça, mais maintenant tout le monde dit ça. C'est plus du tout, ça je m'en suis rendu compte encore l'an dernier, c'est plus du tout un terme méprisant, au contraire. Et les anti-indépendantistes parlent des Kanaks sans mépris, parce que c'est le terme que les Kanaks eux-mêmes ont repris.
C'est une évolution assez habituelle pour un certain nombre de termes. Huguenot, porte-paillot, armée du salut, temple, c'est tous des termes négatifs au départ, pop, qui sont des insultes. Heureusement, dans bien des cas, on l'oublie.
Alors là, bon, je ne sais pas s'il faut terminer par cette dernière question, enfin ce témoignage sur l'assaut de la Grande Ouvert, c'est un peu dramatique de terminer là-dessus, mais c'est bon, vous avez peut-être suivi ça de près ou pas, vous avez peut-être vu des choses, vous avez peut-être vu le film L'Ordre de la Morale, qui est un film qui met ça en scène, à partir du témoignage du patron du GIGN, qui a dénoncé les exécutions extrajudiciaires, les exécutions après reddition. Hein, donc c'est ça, tuer les tous, ça voulait dire qu'on pouvait tuer ceux qui s'étaient rendus. Or, on a maintenant le témoignage de Philippe Le Gorgu, le patron du GIGN à l'époque, qui a démissionné ensuite en grande partie à cause de ça, qui a vu qu'il y a eu au moins 5 Kanaks qui s'étaient rendus et qui ont été exécutés après reddition. Donc il y a eu ces exactions de la part de l'armée française, je crois qu'il faut en être conscient, de notre armée. Il y a eu donc des Kanaks qui ont été tués dans le feu du combat. Il y a eu 2 militaires qui ont été tués aussi, il ne faut pas l'oublier, après les 4 gendarmes qui avaient été tués au cours de la prise d'otage, il y a eu 2 militaires morts dans l'assaut, et donc 21 Kanaks qui sont, dont 5 ont été tués après qu'ils soient rendus. Alors le film le montre, mais c'est pas seulement le film, c'est un témoignage de Philippe Le Gorgu qu'il a vu et qu'il a ensuite dénoncé, même si ça a été contesté par les intéressés, bien entendu. Pour ma part, j'ai posé la question à un général, en demandant est-ce que c'est possible dans l'armée française qu'on puisse encore se comporter comme ça, avec des citoyens français. Il ne faut pas oublier que les Kanaks qui étaient des preneurs d'otages étaient des citoyens français. Et il m'a dit que oui, il pense que c'est tout à fait possible que ces exécutions après réédition aient eu lieu. Donc c'est un des scandales liés à cette affaire de l'assaut de la Grotte d'Ouvert. Mais on ne va pas terminer là-dessus quand même. Je sais pas.
Le thème et le dialogue, c'est pas le dialogue.
Voilà. Non, je crois que, bon, simplement, peut-être pour terminer, dire que nous sommes citoyens français, nous sommes appelés à être vigilants avec ce qui va se passer encore cette année, au mois de septembre, hein, suivre cela, et donc considérer que ce que la France a fait dans le passé, c'est pas forcément à son honneur. En même temps, il y a des très belles choses qui ont été faites, évidemment, au cours de la colonisation. Il y a des pages sombres et des pages plus lumineuses. Mais assez récemment, la France a quand même s'est assez mal comportée. Et donc, il est important qu'on soit au fait de ce qui se fait en notre nom, de ce qui s'est fait et de ce qui se fera. On peut espérer... Là, peut-être pour terminer sur une note plus réjouissante, que s'il y a décolonisation, enfin s'il y a indépendance, c'est pas encore certain, mais s'il y a indépendance, s'il y a décolonisation complète, eh bien que la France ait tiré les leçons des décolonisations bâclées du passé et qu'on puisse avoir peut-être une décolonisation harmonieuse, sans violence, et où tout le monde aurait sa place dans ce pays, si ce pays décide d'être indépendant.